Habemus Papam.
À la mort de Grégoire VII, en 1085, la réforme grégorienne est loin d'être achevée. Heureusement, l'un de ses plus proches collaborateurs va bientôt être élu sur le trône de Saint-Pierre, en la personne d'Eudes de Châtillon. Daniel Moulinet, prêtre du diocèse de Moulins et professeur d'histoire à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon, nous parle de ce chevalier touché par la vocation monastique.
L'homme lui-même est tout à fait intéressant. Il est né à Châtillon-sur-Seine, donc dans la région de Reims, et ça sera vraiment important, parce que c'est un homme issu du milieu de la chevalerie, mais qui va se former comme jeune clerc à Reims, auprès d'un grand personnage qui est Saint Bruno, enfin Bruno, hein, il deviendra saint bien sûr plus tard, et le fondateur de la Chartreuse. Bruno, le Chartreux, est quelqu'un qui veut réformer le clergé, lui donner une qualité morale importante, et effectivement, Eudes de Châtillon, c'est le nom d'Urbain II, Eudes de Châtillon va entrer vraiment dans cette mouvance.
Mais Eudes de Châtillon choisit de devenir moine clunisien, comme l'était Grégoire VII.
En 1067, il deviendra le grand prieur de Cluny, qui est Cluny, vous savez, la grande abbaye qui finalement domine l'Europe. Et alors, il devient le prieur de cette abbaye sous Saint-Hugues. Et là, Grégoire VII, le pape, va l'appeler à Rome auprès de lui.
Grégoire VII a alors déjà commencé à mettre en œuvre sa réforme.
C'est un pape qui veut libérer le clergé de plusieurs poids qui vraiment pesaient sur la qualité du clergé. C'était ce qu'on appelait la simonie, le nicolaïsme et l'investiture laïque. La simonie, c'est-à-dire acquérir des dignités ecclésiastiques à prix d'argent. Le nicolaïsme, eh bien, c'était le désordre des mœurs. Et puis l'investiture laïque, eh bien, c'était de recevoir sa charge avant tout des grands seigneurs plutôt que de la puissance spirituelle. Alors Grégoire VII veut libérer l'Église de ce poids et il appelle auprès de lui des gens solides et il appelle donc auprès de lui Eudes de Châtillon qui est tout à fait dans cette ligne et qui va servir Grégoire VII.
Arrivé à Rome, Eudes de Châtillon est nommé cardinal évêque d'Ostie.
Alors, dans les cardinaux, il y a trois rangs, les cardinaux évêques, les cardinaux prêtres et les cardinaux diacres, donc il est déjà au rang supérieur, qui à cette époque-là joue un plus grand rôle que les deux autres ordres pour l'élection du pape, et le cardinal évêque d'Ostie est l'un des cardinaux qui consacre le souverain pontife.
Eudes de Châtillon est élu sur le trône de Saint-Pierre en 1088. Il prend le nom d'Urbain II.
Son élection ne sera pas, il faut bien l'avouer, une surprise. Il va succéder, alors pas tout à fait à Grégoire VII, il y aura entre les deux le court pontificat de Victor III, mais il est vraiment le successeur désigné de Grégoire VII, et il va mettre en œuvre la réforme grégorienne. Et il va le faire, d'ailleurs avec les talents qui lui sont propres. C'est quelqu'un qui est peut-être plus diplomate que Grégoire VII. Grégoire VII croyait fondamentalement à la justesse de son combat, mais parfois, il avait peut-être une raideur qui l'a un peu desservi vis-à-vis de l'empereur d'Allemagne, Henri IV. Et Urbain, lui, va garder le même combat, mais il va le faire avec davantage de souplesse, davantage de diplomatie.
De fait, pour mettre en œuvre la réforme grégorienne, il va avoir une initiative très originale.
Il va commencer par tenir un concile à Plaisance, donc dans le nord de l'Italie, en Lombardie. Et puis, à partir de là, il va faire donc un grand voyage. Il va faire un grand voyage en France pour justement que cette réforme ne soit pas seulement une décision prise à Rome, mais qu'elle entre dans les mœurs. Et alors, au fil de ce voyage, où les halles qu'il va faire, forcément, se font dans des monastères clunisiens, dans des lieux qui sont déjà acquis à la réforme, et qui, pour lui, évidemment, sont des lieux tout à fait hospitaliers, eh bien, il va donc rencontrer un grand nombre d'évêques, et rencontrer le peuple chrétien, qu'il va fédérer autour de la figure du pape. Il apparaît vraiment comme le chef spirituel de l'Occident, et c'est vraiment quelque chose de neuf. Et il l'a fait, vous voyez, en utilisant, j'allais dire, un moyen tout à fait moderne, évidemment avec les instruments d'époque, qui est le voyage du pape, qui fait plusieurs haltes, et qui rencontre là le clergé, les évêques et la foule des fidèles.
C'est au cours de ces étapes européennes que se tient un second concile majeur du règne d'Urbain II, le concile de Clermont.
Le lieu de Clermont, il est choisi stratégiquement. Parce qu'on est au centre de la France, on est au sud du domaine royal. Alors, il y a une stratégie d'Urbain II, il ne veut pas entrer dans le domaine royal. Parce que le roi de France, Philippe Ier, il y a une tension entre Rome et lui. Parce qu'il faut bien l'avouer, il a répudié son épouse, Berthe, pour prendre pour femme l'épouse de l'un de ses seigneurs, Bertrade, la femme du comte Foulque d'Anjou. Alors, évidemment, il a été excommunié par l'archevêque de Lyon, puis par le pape, et vous comprenez bien que ainsi, Urbain II ne veut pas pénétrer sur le domaine royal, parce que, diplomatiquement, ça poserait beaucoup de problèmes. Alors, il va tenir ce concile à Clermont, presque à la lisière du domaine royal, de façon que les évêques du Midi viennent à Clermont, mais que ceux du Nord, ceux de la France du Nord, ceux du domaine royal, puissent venir également, sans que lui, en allant dans le domaine royal, ne cautionne la position du roi. Et là, c'est très habile, parce qu'il ne va pas se brouiller, vous voyez, avec le roi de France, comme Grégoire VII l'avait fait avec l'empereur d'Allemagne. Et puis, finalement, donc Philippe Ier viendra se réconcilier, et les évêques, quant à eux, eh bien, seront acquis au pape.
Et c'est au cours de ce concile que Urbain II va lancer son célèbre appel à la première croisade.
1095, juste à la porte de la ville, juste devant la porte de la ville, eh bien, le pape, donc, devant une foule rassemblée, un certain nombre d'évêques qui sont venus du sud de la France et d'autres qui sont venus du royaume de France, donc juste un petit peu au nord, eh bien, va appeler à la croisade, va appeler, eh bien, à partir pour rendre service à l'empereur de Constantinople qui est attaqué par les musulmans. Et effectivement, donc la croisade partira l'année suivante, en 1096, le 15 août. Il a dirigé lui-même la croisade par l'intermédiaire d'un légat, qui est Adhémar de Montaigne, l'évêque du Puy. Et puis, ce sera la prise de Jérusalem, le 15 juillet 1099. Et le pape, eh bien, meurt peu après. Il n'a même pas, paraît-il, appris la nouvelle de la prise de la ville, qui rend, mais pour un temps évidemment limité comme nous le savons, la liberté aux chrétiens de vénérer les lieux saints.
C'était le père Daniel Moulinet, professeur à l'Université catholique de Lyon, qui nous parlait du pape Urbain II.